Salut mes petits chatons noirs et bienvenue dans The Marvel Initiative, un podcast qui existe quoi, 4 fois par an. Je suis Sofiane, le leader de la version homme et blanche des Dora Milaje. Et avec moi comme toujours Maxime.
Salut, salut.
Ouais, on est de retour pour l'MCU.
Eh oui.
C'était quand le dernier? Non, Dark Doctor... Non, Thor.
Thor 4.
Et Thor 4. Donc c'est quoi le quatrième qu'on se tape cette année?
Bon, en tout, il y a eu 7 films dans la phase 4, mais cette année, il y a dû en avoir 3 ou 4, ouais.
Parle plus près de ton
micro. Il y a dû en avoir 3 ou 4 cette année, ouais, des films de la phase 4.
Bah ouais, c'est ça, hein, à peu près.
Spidey était sorti en décembre.
Il n'y avait pas un film que tu devais faire?
Ça me dit rien.
Ouais, je crois qu'il y avait un film que tu devais
faire. Truc avec des quenottes.
Avec des quenottes.
Des petites dents.
Ah, il y a des dents, Black Adam?
Ah, je parlais pas de celui-là.
Ah, moi, je parlais des deux. Cette semaine, on va vous parler de Black Panther. Wakanda Forever! Boubouloubouloubouloum. La petite, c'est comment on pourrait appeler ça, la petite musique qui passe à chaque fois qu'il y a un truc avec le Wakanda?
Une espèce de tambour, un petit coup de tambour.
Ouais, voilà. C'est le dernier film de la phase 4.
Longue phase 4.
Une phase 4 plutôt compliquée. Hein.
Ouais.
Il y en a qui ont évité. Je connais un Zoltan qui a tout vu venir et qui a préféré se barrer avant.
Il l'avait annoncé.
Il a préféré se barrer avant. Ouais, la phase 4, elle est franchement décevante pour l'instant.
Elle n'est pas décevante, c'est qu'elle n'est pas très intéressante surtout. Parce qu'on savait qu'on allait être déçu par. Ben non.
Si c'est pas intéressant.
Parce qu'on savait de toute façon que l'après serait très compliqué, l'après Endgame, et que forcément on avait atteint.
C'était l'occasion de recommencer à zéro, de repartir à zéro, de développer des nouveaux personnages. Au final, c'est quoi pour toi? En dehors de celui-là, on va pas parler de celui-là. C'est quoi pour toi le meilleur film de la phase 4 pour l'instant?
J'ai envie de dire Eternel et Doctor Strange 2.
Ok. Moi je dirais Shang-Chi.
Shang-Chi, ouais, qui était pas mal, mais. Plus divertissement, enfin plus...
Ouais, mais des fois c'est bien.
Non, carrément, hein, je critique pas du tout ça, mais c'est juste...
Je crois que ça doit être Shang-Chi mon
préféré. En termes de proposition originale, ouais, je pense que c'est ces deux-là, moi, qui...
Ça doit être Shang-Chi mon préféré, et après, tous les autres, je les trouve soit moyens, soit nuls. Voilà. Même Doctor Strange, je dois dire, avec le recul maintenant...
Je peux comprendre pourquoi.
Ouais. Il y a eu quoi d'autre? Eternal, j'avais pas aimé.
Spider-Man.
No Way Home, c'était tout un buzz, mais...
Ouais. C'est très épuisant, quand même, à la longue.
Ouais.
Pour avoir regardé la version longue... Avec les petites scènes en plus, ils avaient ressorti une version qui était ressortie au cinéma. Enfin, c'est dommage parce que ça s'intéresse à la partie du film qui manquait de contenance, qui est la première partie, quoi. Mais c'est que des vannes, quoi. Donc bon, pas très intéressant.
C'est un peu too much. C'était un problème que j'avais. Pour moi, les films de Spider-Man peuvent être drôles, mais c'est Spider-Man qui doit être drôle. Ça ne doit pas être tout le monde plus Spider-Man.
Là, c'est le problème, c'est qu'on rit de lui et c'est pas très...
Et la phase 4 aussi, c'était beaucoup de séries.
Oui, c'est vrai que c'est l'introduction des séries.
C'est la phase 4 des séries.
Et c'est presque même ce qui est sorti de mieux du MCU est sorti en série, dans la phase 4. Hein.
Tu trouves?
Que ce soit WandaVision ou Loki, moi, c'est des projets qui m'ont vachement plus marqué au final dans le temps que n'ont pu marquer Doctor Strange 2 ou Eternal.
Ouais, mais le reste...
Ah non, mais je suis d'accord. Hein. Après, il n'y a pas beaucoup de trucs passionnants, quoi, mais...
Disons que l'ami Kevin nous avait habitués à un peu plus de qualitatif.
Ouais, mais là, on est passé sur du quantitatif,
voilà.
C'est ça le problème, quoi.
Voilà.
On en parlait un petit peu par rapport à la phase 1 hors antenne. Il y a peut-être plus de projets, mais ils sont moins intéressants, quoi.
C'est la pierre pour toi, la phase 4?
Il y a un creux en phase 2 qui me plaisait pas trop, mais en vrai, je pense quand même que globalement, oui, il faut dire que c'est quand même la pierre en termes au moins de cohérence... et de sentiment de globalité de cet univers où là en fait t'es paumé, tu sais pas où
la 2 te présentait les pierres de l'infini.
Ouais, c'est
ça, t'avais quand même une fin conducteur.
Oui, t'as les gardiens qui débarquent, enfin t'as quand même des choses hyper intéressantes et qui rafraîchissent l'univers, alors que là on est dans la prolongation du rafraîchissement d'univers, sauf que bon, rafraîchissement au bout d'un moment c'est un peu séché, quoi.
Tu sais ce qui va pouvoir rafraîchir tout ça? C'est Deadpool. Non, je déconne.
Je suis pas sûr non plus, malheureusement.
Ça va être, je sens justement, le Deadpool qui va se moquer du MCU un petit peu, tu sais, Marvel qui se fait des clins d'œil à lui-même. C'est vrai. Un peu comme ils ont fait avec She-Hulk dans le dernier épisode, ça pourrait être un peu comme ça, je pense. Donc Black Panther, le premier film, t'étais pas là pour le premier?
Non.
T'aimes bien?
Oui, j'avais bien aimé. C'est pas, je le mettrais pas autant sur un piédestal que peuvent le mettre beaucoup de gens, mais je peux comprendre pourquoi c'est un film qui est marqué son époque.
J'avais beaucoup aimé, moi.
Qui est marqué même culturellement à plein de niveaux, mais c'est un super divertissement. Il y a des messages trop cool dans le film. Deux acteurs principaux qui font un super duo. Enfin, et puis même la force du Wakanda, ses personnages secondaires aussi. Donc, ouais. Mm-hmm. Non, j'avais quand même vachement apprécié. Même la musique et tout. Enfin, il y a vraiment de quoi faire avec ce film-là.
C'est vrai que le premier était porté par deux hommes. Mm. Et on disait justement dans les épisodes qu'on avait fait, ou même ailleurs, les gens ont dit que c'est porté par deux hommes, mais tout le reste, c'est des femmes.
Ah bah bien sûr, ouais.
Et là, ce film-là est la confirmation que...
Bah, on se demande presque où sont les hommes, à part l'antagoniste, quoi. Il y en a presque
et
pas...
Et c'est pas... Là, on a vraiment des personnages qui sont en 3D, quoi.
Ouais. Tu vois,
qui ont
de la substance.
Qui ont de la substance au niveau féminin.
Non, je suis d'accord.
Et c'est vrai que le duo d'acteurs dans le premier était excellent, surtout Michael B. Jordan.
Oui, bah, tout à fait. Hein. Il volait carrément la vedette à Chadwick. Hein.
Je ne me rappelle plus du tout. Je l'ai fait avec Océane et Doug.
Je pense que c'était un de vos derniers, hein, peut-être.
Oui, ça doit dater. Hein.
Bah, 2018.
Oui, ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Mm-hmm. Mais bon, il paraît qu'il y a un autre podcast qui veut faire le MCU, qui essaie de marcher sur mes plates-bandes et qui va refaire tout le MCU film par film.
C'est vrai?
Ouais. Ouais, ouais.
Qui ça?
Ça s'appelle La Saga.
Ah, d'accord. Ouais.
Non, je vais juste faire la phase 1. Mm. Je vais juste faire la phase 1, histoire de...
Oui, qu'il y a une saga déjà en soi.
Ouais, et puis en plus, à l'époque, je faisais pas les épisodes de la même manière. Oui, on n'avait pas de micro et tout. Mais je vais réinviter les habituels. Hein. Il y aura ouais, voilà.
T'as moyen de te
refaire au moins la phase 1. Ouais. Mm.
Moi, c'est plutôt intelligent de faire la phase 1.
Donc Chadwick Boseman avait re-signé pour 10 millions pour le 2 et 20 millions pour le 3, ce qui est pas mal. Sauf qu'hélas, bien sûr, il est décédé en 2020, en août 2020, d'un cancer du côlon.
43 ans.
C'était totalement inattendu. Quoi.
C'était la surprise générale, à tel point que même Ryan Coogler et Kevin Feige, par exemple, n'étaient pas au courant de sa maladie avant les tout derniers moments de ce qu'on avait compris à l'époque. Et ouais, c'était une grosse claque hein, quand même.
C'est tout à son honneur, en plus, d'avoir continué à travailler autant. Ouais. Parce qu'il a bossé hein, dans les dernières années.
De toute façon, quand t'écoutes les échos de personnes qui ont travaillé avec lui sur les productions de films, forcément, il n'y aura que des éloges, hein, parce que ça avait l'air d'être quelqu'un de très bien, en plus, à tel point que je crois que c'était... Il avait été parrainé par...
Il faisait beaucoup pour les œuvres caricatives.
Ouais, c'est ça. Et puis, il avait même été parrainé, il me semble, par Denzel Washington, c'est via son école, enfin, son université, tout ça. Donc, il avait quand même une espèce d'héritage... assez puissant et il a pas pu faire tout ce qu'il aurait aimé dans sa vie, mais j'ai l'impression qu'il a quand même, comme il l'a su et qu'il l'a gardé secret, il a fait en sorte qu'on garde cette image de lui et c'est tout à son honneur parce que c'est comme son personnage dans le film, c'est quelqu'un qui est presque trop noble, tu vois. Genre, c'est ce
mais tu vois, si tu dois classer les super-héros afro-américains, ok, il y a eu Falcon et War Machine avant lui. Mais enfin, tu me demandes super-héros black américain. Le premier
Wesley
qui vient...
Snipes.
Il y a Wesley, ok. Mais le premier qui va venir à l'esprit, c'est ça. Et John Stewart de Green Lantern. Green Lantern qui sera peut-être second, mais on ne l'a pas encore vu sur grand écran.
C'est ça.
Donc lui, peut-être le jour où il sera enfin
c'est
bien
dans les
adapté,
tuyaux,
voilà.
Rassure-toi.
Mais c'est vrai que Chadwick Boseman avait une sorte de force tranquille... charisme naturel.
Ouais, c'est ça, une espèce de côté naturel à incarner ce personnage qui était...
En retrait, quand même.
Mmh, ah, bien sûr. Il était pas, c'est pas tout le héros de son
retenue,
film. Hein,
c'est tout dans la retenue, c'est très en retrait. En fait, c'est un peu une page blanche sur laquelle les autres acteurs peuvent jouer un petit
tout à
peu,
fait,
je
ouais.
trouve,
ouais, clairement.
Chadwick Boseman. Et c'est vrai que quand on avait dû faire l'épisode, on avait dû dire au final, c'est pas Black Panther le personnage le plus intéressant. C'est pour ça que j'étais étonné sur Discord, il y a quelqu'un qui disait « Moi, t'enlèves Black Panther, t'enlèves T'Challa de ce film-là, je ne suis pas intéressé par les autres personnages. » Et moi, de mon point de vue, c'était bah, au contraire, je trouve que ça va permettre aux autres personnages d'être encore plus intéressants.
C'est ça.
Et c'est des personnages qui, déjà à l'origine, font partie... Il y a plus de personnages intéressants dans le premier Black Panther... que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films Marvel.
J'ai presque envie de dire tous. Hein.
Ouais. Et là, c'est un vrai cast...
À part les gardiens, où t'avais par exemple une équipe quand
ils
même très équilibrée.
Avec Eternals. Ils ont essayé avec Eternals.
Ouais, mais ça marche pas du tout de la même manière. Enfin,
sinon,
ça
c'est Guardians,
pas.
Le truc le plus proche, où il y a un grand cast comme ça, et tous les personnages sont aussi intéressants les uns que les autres.
Mais il y en a plus dans le Wakanda. Enfin,
ouais,
c'est plus foisonnant.
Y a vraiment beaucoup de personnages. Et c'est ça qui me plaît, moi, dans cet univers. c'est que je trouve que contrairement au reste de Marvel, t'as un sentiment de culture, t'as un sentiment de ça existe.
Ouais, de vie cohérente. Ça pourrait exister. Ouais, c'est assez cohérent. Ouais.
Et tous les personnages sont là, sont développés. Je veux dire, ils pourraient très bien mettre la moitié moins de personnages et ça fonctionnerait moins, quoi, je trouve. C'était choquant, sa mort, hein, on va se dire.
Ouais, clairement.
Et je suis content qu'ils aient pas décidé de recast.
Ouais, c'est un choix qui a été très vite annoncé, de toute façon, par respect, en fait, juste pour lui. Hein. Je crois que ça a été en accord avec sa famille, qui a refusé, enfin, pas refusé, mais qui avait pas l'air partante pour ça. Et c'est pas plus mal, parce que quand tu vois ce qui s'est passé avec Leia dans Star Wars, par exemple, ça apporte pas tant de choses. Que en fait, tu peux faire passer les messages de la même manière sans que l'acteur soit là.
J'ai dit recast. Hein,
Recast ou réutiliser des images de, tu sais, qui n'avaient pas été exploitées en remettant un acteur par-dessous. Enfin, tu sais, t'as plein de manières de...
Ils auraient pu faire une dernière scène où il dit au revoir et il meurt. Et...
Ouais, mais je pense que c'est mieux de la manière dont c'est fait dans le film.
Oh, complètement. Faut savoir aussi quand même un minimum être respectueux.
Ouais, c'est ça, plus de subtilité, de sincérité dans le message. Et ça passe par des moyens plus simples, en fait, que juste des trucs un peu artificiels et qui seraient un peu dérangeant. Et puis au moins, sa mort a de l'impact. Si tu le recastes, au final, ça va juste gêner les gens dans leur appréciation du film, parce qu'ils vont être bloqués par un acteur qui a changé. Et du coup, tu n'es pas dans le film de la même manière qu'avec l'absence du personnage, qui justement marque vachement plus l'esprit, quoi.
En fait, l'épisode devrait être un peu plus court que d'habitude, parce qu'on est dimanche, on a des trucs à faire après. Et on n'a pas trop eu le temps de... Enfin, ouais, c'est plus difficile quand les films viennent de sortir que quand on les a déjà. On a le temps de préparer, de faire des recherches, de bien développer l'épisode, etc. Alors que là, on sort du cinéma et ensuite il faut qu'on enregistre. Et donc c'est forcément plus court quand c'est comme ça. C'est dommage. Ouais. Je préfère personnellement, je préférerais limite faire ça 6 mois après la sortie des épisodes à chaque fois, ou y retourner 6 mois après, ouais, ou ce genre de truc, parce que. Par exemple, quand j'ai vu le film, j'ai plutôt bien aimé.
Ouais, t'es sorti plutôt très content. Moi, c'est la première fois que je te vois comme ça devant un film Marvel depuis un moment, en tout
ouais,
cas.
Ouais, non, j'ai dit j'ai bien aimé. Et avec deux nuits de passé à y réfléchir, et j'ai pas le même avis que quand j'en suis sorti, quoi, tu vois, par exemple.
Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de le voir 2 fois, donc le film a décanté un peu plus longtemps, même si je l'ai vu sur une période assez courte, mais... Mais j'ai changé d'avis plusieurs fois en voyant le film déjà 2 fois, donc c'est vrai que c'est particulier.
Donc tu me disais, le co-scénariste, il a fait quoi ?
Le co-scénariste a un petit peu été... donc, qui bosse avec Ryan Coogler, a été un petit peu débauché par Marvel il y a quelques années pour lancer des projets de script, parce qu'il avait sorti des scripts intéressants avant cela. Et au final, il a surtout fait Black Panther 1, Black Panther 2 avec Ryan Coogler. Quelques projets à côté, mais rien de... Enfin, pas des choses connues, quoi. Donc, on est sur...
Ouais, il s'est fait récupérer dès le biberon Kevin Feige.
Les purs produits du MCU. Ouais.
Je trouve ça hallucinant. Il y a des mecs qui... Enfin, il y a... Ils ont rien fait du tout. Mais ils sortent d'une école ou un truc comme ça. Et directement, Kevin Feige va te les choper, quoi.
Pour le lancer sur des projets qui valent des millions de patates.
Pareil,
quoi,
avec les réels, hein, les réels, oui, aussi, bien sûr. Un petit film indépendant et hop, il va aller.
C'était le cas pour Captain America, c'était vraiment la première fois, je crois. Captain Marvel.
Ouais, c'était ça. Un budget de 250 millions,
ouais.
Donc dans la tranche plutôt élevée du MCU, c'est-à-dire c'est soit 200, soit 250.
C'est ça, maintenant on est là-dessus.
Là, en l'occurrence, le budget, tu le vois.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de scènes en extérieur, avec des décors, avec des...
C'est un peu de studio. Enfin, il y a quand même pas mal de studios, j'ai trouvé. Mais tu sens quand même que certaines scènes...
En tout cas, il y a beaucoup de gens aussi.
Oui.
Il y a beaucoup de figurants. Il y a quand même pas mal de... Enfin, disons que tu le vois un peu plus, je trouve, que... je sais pas, moi... Black Widow a coûté 250 ?
200, non ?
200
Oui, il me semble que c'était 200.
Où est parti l'argent, quoi, enfin, c'est fou.
Ouais, non, c'est pas la même chose. Il y a encore quelques petits problèmes, et j'étais assez surpris, vu le temps de production qu'a eu le film, de voir encore certains problèmes d'effets spéciaux sur les arrière-plans dans Black Panther, qui était déjà un problème dans Black Panther 1, et de retrouver un peu les mêmes problèmes dans le 2, sur, je sais pas si c'est quelque chose qui t'a marqué, mais les fonds sont souvent très... font très toc, quoi. Ils sont très flous, et très moche. Enfin, vraiment, ça sort un peu du film, mais c'était déjà un problème du premier.
C'est
où il y avait
un problème de Marvel en général.
Oui, 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 bien sûr, mais disons que vu qu'il y a quand même une attention particulière qui est apportée à l'esthétique sur ce film-là, comme sur le premier d'ailleurs.
Ouais, mais en même temps, si tu peux rien voir du film... Excuse-moi, mais moi, j'ai des lunettes un peu teintées pour pouvoir lire les écrans, tu sais, là, les lunettes. Donc, ça fait que c'est un peu
plus... Oui, ça assombrit un chouïa, ouais.
Je n'ai rien vu pendant au moins trois quarts du film.
Il y a des scènes...
Je ne voyais rien. Et je te l'ai dit plusieurs fois. Genre, je disais, je ne vois rien. J'avais les yeux plissés et tout. J'essayais de nous concentrer.
Autant sous l'eau, je peux le comprendre. Autant mais quand c'est les scènes de nuit en extérieur.
Il y a des tonnes de scènes de nuit. Il y en a beaucoup, des scènes de nuit. De course poursuite, de bateau, de machin. Et je ne voyais rien pendant tout le film. Mais ça, c'est hallucinant qu'on en soit encore là. Je suis le premier à dire... Ouais, mais les scènes dans, par exemple, The Long Night de Game of Thrones et tout, c'est parce que nos télés, actuellement, elles sont en mode showing pour montrer dans les magasins. Et il faut faire quelques réglages et tu peux régler ça assez facilement sur tes télés. Mm-hmm. Tu vois, tu te dis, t'enlèves le motion smoothing, t'enlèves le machin et tu peux commencer à faire le réglage dans tes télés. Mais là, quand c'est sur un grand écran, c'est que c'est fait pour être comme ça. Là, c'est pas un problème de télé, là, on est d'accord.
Ah bah non, là, c'est un problème d'étalonnage de base. Mais
là, je ne voyais rien pendant tout le film.
Mais la scène la plus criante là-dessus, et d'ailleurs, je t'ai vu réagir pendant la séance, c'est la scène où t'as un espèce de travelling avant qui va sur l'eau quand Ramonda et Shuri sont en train de parler au bord de la plage en début de film, qu'elles parlent de leur deuil.
Et il sort de l'eau.
Et t'as Namor qui sort de l'eau dans cette scène, mais la scène part du coup de la plage et part sur l'eau à une vitesse assez élevée. Et on ne voit rien si ce n'est un tout petit reflet de la lune dans l'eau qui fait que tu comprends qu'en fait il y a de la vitesse et que tu recules, enfin que tu avances du coup. Mais c'est très très particulier que ça soit aussi sombre aussi souvent, quoi. Oui.
Non, c'est abusé.
Enfin, je sais pas si toi qui aimes bien Ryan Coogler, est-ce que il a l'habitude d'utiliser autant l'obscurité dans ses films ? Parce que je n'ai pas le souvenir que ça soit aussi.
Bah écoute, il a fait deux films avant. Hein, donc,
Trois ?
Il n'a pas fait que deux ?
Mais il a fait les deux Creed.
Non, il a fait qu'un Creed.
Oui, mais c'est vrai qu'il produit le deuxième.
Non, il a fait que trois films, hein, Coogler. Mmh. Donc c'est difficile de dire est-ce que ça
c'est
pas tout. Quoi.
C'est vrai.
On démarre avec un hommage à T'Challa, qui est mort d'une maladie inconnue. Mmh. Shuri a une cure pour le cancer, mais elle n'en fait rien. Enfin, on ne sait pas si c'est le cancer, mais on peut se dire que c'est sûrement comme...
En fait, ils sont restés...
C'est qu'il peut se battre contre tout, il peut se battre contre Thanos, il peut se battre... Mais il y a certaines choses, comme la maladie.
Mais c'est bien justifié, je trouve, par le film, parce que justement, t'as le passif du film d'avant qui t'amène le fait qu'ils n'ont plus cette herbe cœur qui permet, je pense, de le soigner d'une maladie sans aucun problème. Je pense que ça pourrait.
Ouais, mais de toute façon, ils en font une synthétique à la fin du film, donc
ils en font une synthétique. Mais disons que, en récupérant quand même une fleur qui existait de base, tu vois, il la créait pas de toute pièce. C'est ça qui est quand même bien.
Ouais.
Mais je trouve que ça justifie bien. Le fait que une maladie puisse emporter même ce personnage-là qui soit aussi fort, tu vois, parce que il est dépourvu de ce qui est censé faire sa force aussi, tu vois. Donc et puis ça reste assez flou pour que on puisse très bien comprendre que c'est aussi une référence directe à l'acteur, et c'est plutôt touchant, enfin, qu'on reste dans le flou comme lui est resté dans le flou sur sa maladie, tu vois. Il y a une espèce de forme de respect. On en parlait aussi en off avant de lancer l'épisode, mais imaginons qu'il ait été tué par un autre personnage. Ça aurait pas du tout marché, enfin ça pouvait pas marcher en fait, parce que
non,
on aurait eu trop de ressentiment envers l'autre personnage, et du coup il aurait pas passé le film, quoi. Donc
non, et puis même t'aurais montré ça comment? T'aurais montré Namor qui sort de sa chambre avec un couteau plein de sang,
et puis il faut le justifier derrière, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt.
Non, ça fonctionne largement mieux comme ça. C'est le meilleur moyen. Il y a un bel hommage avec le générique, le truc Marvel musique, qu'ils avaient déjà mis une fois, je crois, non?
Je crois qu'ils l'avaient déjà utilisé, puis il était
juste
ressorti
mort,
en ligne.
Et, sauf que là, ils mettent aucun dialogue, juste le son du vent.
Ouais.
Et, ça, c'est forcément obligé de te mettre...
Les poils,
te mettre les frissons, quoi. Ouais, c'était le meilleur moyen de le gérer, quoi.
De toute façon, il n'y avait pas de bon moyen. Disons qu'ils ont limité un peu la casse et ils l'ont bien fait. Et c'était sûrement le plus difficile à faire dans ce film, c'est de lui rendre hommage sans forcément que ça devienne un peu crado et presque... Enfin, tu sais, pour le pognon, quoi. Parce que d'une certaine manière, c'est quand même des films qui vendent à la base, quoi. Donc, il y avait un entre-deux à trouver, et là, il est quand même plutôt bien géré, je trouve.
Il se concentre là-dessus au début et à la fin du film, en fait. Et c'est bien que ce soit pas juste le début, qu'à la fin, en fait.
Il y a une boucle, vraiment.
On continue l'hommage avec ça. Ce soit pas... Mais que pendant tout le film, ils sont dans l'ombre... de T'Challa, Mais c'est pas forcément une ombre menaçante non. Où on a peur de le remplacer ou ceci ou cela. C'est bah il y a quand même Shuri qui veut pas que le Black Panther revienne en fait. Hein.
Oui, clairement.
C'est ça son truc. Elle a un vrai arc.
De rejet, ouais.
Voilà, elle a un vrai arc dans le film vis-à-vis de ça. Et on a aussi il a un fils visiblement. Un truc que je me suis posé en plus pendant le film. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont eu le temps d'avoir un gosse ? Je me suis dit, à un moment dans le film, et à la fin, elle se pointe avec le gamin, et je fais bon. Qui a un grand sourire à la Chadwick Boseman.
Et d'ailleurs, en l'ayant vu deux fois, j'ai remarqué que la scène du coup où Ramonda arrive à Haïti pour retrouver le personnage de Nakia, on voit le fils de T'Challa, du coup, parmi les enfants qui vont accueillir Ramonda, et c'est d'ailleurs un de ceux qui est le plus mis en avant par la caméra, donc c'est marrant qu'il y a ce petit truc qu'on découvre qu'avec la scène post-générique du coup.
Un an plus tard, tout le monde veut le vibranium et une grosse déception pour moi dans ce film. Bah en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir Namor dans ce film.
Non, c'est vrai.
Pour moi, d'ailleurs Black Panther 3, s'il arrive un jour, ne doit pas avoir de grands méchants ou de trucs comme ça.
Il n'y en a pas besoin.
Il doit y avoir une seule entité qui doit être... c'est le gouvernement américain. C'est la CIA. Ça devrait être ça. Mmh. Parce que la CIA détruit des tonnes de pays sud-américains et africains et autres, et asiatiques, depuis leur existence. C'est-à-dire à faire des coups, à mettre des gens
faire au pouvoir, ouais.
Essayer de gérer... de prendre leur argent, de ceci. Et je trouve que... Étant donné que c'est une des entités les plus méchantes et les plus horribles de l'histoire, ça, quand je voyais le début du film, je me suis dit « Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un film Black Panther contre le USA, quoi. Tu vois ?»
Ouais, non, mais c'est en plus ce qui est un peu teasé par le film à des moments, mais on n'y est pas encore, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, mais
on est dans une montée
ils y seront
des
jamais.
Bah, je ne suis pas certain que...
Marvel, il ne ferait jamais un truc, la guerre contre la CIA.
Non, je suis d'accord, mais je serais pas surpris que dans un film comme le prochain Captain America, qui est un personnage noir en personnage principal, qui va traiter visiblement de nouvel ordre mondial, c'est dans le titre.
Ouais, mais ce sera comme Winter Soldier.
Ouais, non, mais je suis d'accord, mais puisse instaurer quelques problématiques, notamment par rapport au Wakanda aux États-Unis, et lui, par exemple, qui peut se retrouver au milieu à devoir gérer des choses parce qu'il y a des problèmes de gérance internationale entre des entités super-héroïques et des États.
T'es en train de me dire qu'ils devraient être potes parce qu'ils sont noirs, là, c'est ça ?
Non, pas du tout, mais disons que je pense que le film Captain America va traiter d'enjeux internationaux.
Ouais.
Et c'est clairement ce qui est... Il y a des pièces qui sont avancées sur l'échiquier dans ce film qui me laissent penser que ça peut ressurgir dans ce film-là, quoi. Et ça me surprendrait pas, parce que c'est vrai que toute la question, même si dans ce film-là, c'est un peu plus la France qui prend tarot que les États-Unis, au final.
C'est autant. Hein.
Non, bah, les États-Unis sont plus présents dans le film... Mais on pointe le doigt sur la France de manière assez forte pendant la première partie.
Ouais.
Et c'est même plutôt... Fin,
on pointe...
C'est bien de le rappeler aussi, quoi.
Bah en fait, c'est normal. On parle de l'Afrique, là. Mm. Ah, voilà.
Les plus grandes puissances colonisatrices. Et en plus, dans le premier film, je suis en train de penser, c'était aussi mis en avant par rapport à Londres et par rapport au Royaume-Uni.
C'était les Anglais, aussi... ouais. Les Anglais avec leur musée. Mm-hmm. Et là, c'est les Français.
Et les États-Unis, du coup.
Non, mais c'est normal. En gros, il manquerait plus qu'ils se moquent des Portugais, on aurait toute la...
Bah, ils en parlent avec les conquistadors dans ce film, d'une certaine manière, hein, de toute façon. Donc,
La CIA utilise une machine pour détecter le vibranium. C'était ça que je voulais voir, moi, en fait, quand j'ai entendu, quand j'ai réfléchi à ce que je voulais voir dans un Black Panther 2. C'était justement les grandes nations qui essaient d'obtenir le vibranium et ils font pas grand chose avec ça. C'est juste une excuse pour ramener Namor dans...
Et Riri Williams.
Et Riri, ouais. Et c'est vraiment une pure excuse. Et c'est dommage parce que je pense sérieusement qu'ils auraient pu faire tout un film là-dessus. Et là, en fait, ils ont des petits bouts de film un peu. Et ça fait un long film. Et je pense qu'ils auraient pu faire un film plus court qui se serait focalisé sur un truc.
Quitte à traiter de l'autre partie dans un deuxième, quoi.
Voilà, et quitte à ne pas avoir, par exemple, Riri Williams.
Ouais, je suis assez d'accord.
Qui, euh, qui semble être une sorte de note des execs ou de Kevin Feige. Ce serait cool qu'on ait ce personnage qui vient de... Ça fait quoi ? Ça fait même pas 10 ans qu'elle existe dans les comics.
Ouais, on est sur une quinzaine, vingtaine d'années grand max.
Mais déjà ? Sérieux, Ironheart, ça fait déjà 15 ans qu'elle existe.
Ouais, je pense qu'on est plus sur 15 que sur 10, mais...
Ironheart, sérieux ? J'ai l'impression que c'est un perso très récent. Il y a une série Ironheart qui va commencer.
Ouais, hein, tout à fait.
2016,
ok, ouais.
Non, ah ouais,
ouais, donc même pas.
Ah non, elle est très récente. Hein.
Mais ce qui est pas trop mal par rapport au personnage de Riri, et je comprends qu'il soit dans le film là, au-delà du côté exec et on a besoin de placer des persos pour la suite, c'est que sachant qu'il n'y a plus Iron Man et que dans les comics, elle a quand même ses origines via ce personnage-là, enfin en tout cas, elle est liée à ce personnage-là, là, le fait qu'il soit plus là, lui créer une autre origin story avec les personnages existants, je préfère plutôt que ça soit une fanboy de Tony Stark à l'excès. Et que ça soit encore une fois...
On a déjà eu Miss Marvel. Là.
Ouais, non, mais il y en a eu plein des personnages comme ça. Et
Spider-Man.
Spider-Man aussi. Et puis, c'est vrai que t'avais besoin aussi, peut-être pour Shuri, d'avoir une figure un peu plus de son âge qu'on n'a pas dans le reste des personnages du Wakanda, où ils sont quand même tous plus âgés qu'elle. Et du coup, bah, pour le personnage de Shuri, qui a aussi besoin d'avancer dans ce film-là, qui est cette espèce d'ami qui puisse après lui servir pour la suite, c'est quand même... C'est bien introduit. C'est pas ce que j'avais forcément besoin de voir, mais c'est pas trop mal fait.
Je pense aussi que, comme avec Killmonger, Coogler aime bien avoir un personnage afro-américain.
Mmh, ah, tout
c'est
à
un
fait,
film très africain. Et là, il n'y avait pas son personnage d'afro-américain comme il avait dans le premier.
Ouais, et puis c'est surtout d'enrichir la représentation noire à l'écran, parce que c'est quand même un des buts de ces films-là à la base, c'est de montrer toute la diversité qu'on peut avoir.
Mais y a un côté,
dans le cinéma noir américain. Est-ce que ça a été plus motivé par le côté technologie à la base ? Pour relier les personnages entre eux. Parce que je vois pas avec qui d'autre ça aurait pu fonctionner, en fait. C'est surtout ça, le truc. Mais,
ça se trouve, il était fan de Riri Williams et il a décidé de
l'ajouter. Ouais, c'est possible aussi. Hein,
Mais là, en ce moment, sur cette phase, on a énormément de personnages qui sont des nouveaux personnages. Mm. Thor Jane, par exemple. Jane en Thor, c'est très récent comme truc. Oui. Ça date de quoi ? 2015, 2016, pareil. Hein,
ouais, c'est 2014, je crois, que ça commence.
Miss Marvel, cette version de Miss Marvel, c'est assez récent quand même. Mm. C'est très récent.
Tout à fait, ouais.
Je suis sûr que je dois en oublier d'autres, hein, mais Shang-Chi est plus vieux. Hein,
ouais. Bah, t'as le Moon Knight de l'émir qui est un peu adapté dans la série, qui est aussi assez récent. T'as quelques
Eternals, c'est plus ou moins une version récente des Eternals qui est adaptée. Donc tu vois, là, en ce moment, ils sont à court de legacy, de personnages legacy.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sortent Namor. Hein.
Ouais, Namor, c'est le plus vieux. Lui,
bah, il est même né avant Marvel Comics.
Ouais, voilà.
Donc...
lui, c'est le plus vieux.
C'est ça.
Il était temps qu'il avait... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, mais Namor, ils n'avaient pas les droits pendant très longtemps, en fait. Mm-hmm. C'est ça, le truc.
Tout à fait.
Je ne sais plus qui avait les droits pour Namor.
Je ne sais pas si ce n'est pas Universal, qui avait aussi les droits... Qui avait encore un droit sur Hulk et tout ça, ouais. Mm.
Comme s'ils allaient faire un film sur Namor.
Ouais. Surtout si... Enfin, là, Namor est réinventé d'une certaine manière, et je pense que si tu avais sorti le personnage de Namor tel quel des pages de comics, ça serait compliqué à introduire dans un film... qui ne soit pas relié justement à plein d'autres choses, parce que pour le coup, il manquerait de substance, Namor. Il a besoin d'être dans un environnement avec plein de choses déjà établies, en fait, pour apporter son grain de sel.
Tu sais ce qu'on va pas avoir, et ce qui est assez dommage, c'est qu'on va pas avoir Storm et T'Challa ensemble.
Non, mais du coup, on va avoir Namor et Sue, et ça, déjà, c'est pas mal.
Et Sue ?
Bah, Sue, Susan Storm.
Ah oui. Oui,
il est amoureux d'elle.
Non, parce que ouais, là, on vient de dire deux Storm d'affilée, donc c'est un peu... Ouais. Mon cerveau, il comprend pas tout. Ouais, ouais, ok.
Susan Storm, ouais. Mais le truc, c'est que dans les premières histoires, quand Namor a été apporté, petit à petit, il tombe éperdument amoureux de Susan Storm.
Monde, hein.
Oui, comme beaucoup de gens.
Tous les mecs, dans les MCU tombent amoureux de Sue.
Enfin, dans Marvel, tu veux dire.
Ouais, dans Marvel.
Ça va venir aussi, mais...
Donc ça fait sortir Namor de son trou. Il traîne avec des schtroumpfs sous-marins. Et ce qu'il veut, c'est la scientifique responsable... du détecteur de vibrations.
La création de cette machine, ouais.
Où ce sera la guerre. T'aimes bien tout ce côté mayen ?
Oui, ça c'est hyper
bonne réussi. Idée, hein.
Ouais, c'est une super
réinvention. Sinon, on aurait eu Aquaman, quoi.
Bah, c'est un peu le problème, ouais. J'avais pas envie d'avoir Aquaman 2.
On aurait eu Aquaman, quoi.
Non, c'est bien amené en plus. Enfin, ça a été fait de manière. Tu sens qu'il y a quand même une certaine attention qui est apportée là-dessus, parce qu'au final, dans ce deuxième film, on parle presque moins de. La culture africaine que de la culture méso-américaine, on va dire, sur justement
Je sais pas si on en parle en fait.
Bah c'est montré quand même.
C'est montré rapidement dans la chaîne, dans la scène avec Shuri où elle va dans le monde enchanté et machin.
Monde enchanté.
Mais c'est trop superficiel. C'est pas en substance. C'est vraiment purement look. En fait, il y a un problème dans ce film, c'est que Namor est à la fois bien utilisé, mais à la fois sous-exploité.
Ouais.
Et il est bien utilisé pour certaines choses, comme ses speeches, son charisme, tous ces trucs-là. Enfin, l'acteur est excellent. Mmh. Mais j'ai du mal avec son peuple à vraiment me mettre le doigt dessus exactement. Autant Wakanda, tu peux y croire d'une certaine manière. Autant là, j'ai pas vraiment compris en fait, parce qu'on dit que c'est un mutant, c'est ça ?
Ouais, bah, en lui, se présente comme un mutant en tout cas.
Ouais.
Ouais, ouais.
Sauf que la raison pour laquelle il est pas bleu, c'est parce qu'il a grandi dans le ventre de sa mère avant qu'elle soit transformée.
C'est ça.
Donc c'est pas vraiment un mutant.
Bah disons que ça a pu créer un gène mutant parce que justement il était encore en développement dans le ventre de sa mère. Et, enfin, tu vois,
ils ont mis la phrase là histoire de faire un clin d'œil.
Oui, parce que c'est le premier mutant. Proclamé de l'univers Marvel avant qu'il redconne le truc et qu'il y ait des personnages plus vieux que Namor qui étaient des mutants avant lui. Donc
en tout cas, c'est le premier qui est apparu.
Apocalypse, mais oui, c'est le premier mutant, c'est le premier, c'est lui. Et il te le replace bien comme il faut, là, tu vois. Une question que je me posais, enfin, je sais pas ce que t'en penses, c'est sur le fait qu'il y ait du vibranium ailleurs qu'au Wakanda.
C'est logique.
Assez intéressant et que je trouve surtout très intéressant par rapport au Wakanda. Où tu sens que, notamment, je crois que c'est Okoye qui en parle, que sa perception, du coup, de tous ces mythes et de toutes les croyances qu'elle peut avoir par rapport au Wakanda, bah, tu sens que c'est un peu ébranlé, parce qu'ils sont censés avoir ce côté unique via cette pierre, ce météore qui est tombé chez eux. Et là, tu sens qu'ils le perdent un peu et que bah, c'est plus la même chose qu'avant. Enfin,
Ah, mais c'est tombé dans l'eau.
Oui, c'est tombé dans l'eau. Bah,
c'est pas comme s'ils avaient retrouvé ça dans le Nevada. Ou...
Oui, c'est pas faux. Mais bon, tu peux te dire qu'ils peuvent en trouver ailleurs maintenant, quoi. Tu vois, s'il y a un peu cette facilité-là.
Ouais, il y a ça, mais le truc, c'est que l'eau est contrôlée par Namor.
Mmh. Oui,
tant qu'il y a un Namor, personne va piquer le vibranium.
Ouais, non, c'est pas faux.
Donc, en fait, c'est comme s'il y avait un Wakanda, mais sous l'eau. Mmh. Donc,
c'est un grand royaume.
Non, et puis, c'est une bonne idée d'avoir fait que, pour la première fois, justement, ils se battent contre quelqu'un qui a du vibranium. Et je trouve qu'ils auraient limite même pu en faire plus par rapport
à
ça.
Oui, parce que...
T'as... Vraiment montrer ce que ça fait vibranium contre vibranium, tu vois.
J'étais un peu frustré là-dessus, ouais. Parce que t'as Shuri qui parle du fait, bah, quand il le rencontre pour la première fois Namor, que bah oui, il a du vibranium sur lui, et du coup, bah, tu sens que ça fait aussi partie, eux, de leur manière de s'habiller, de créer des objets avec ce truc-là. Mais tu le vois pas tant en action, si ce n'est qu'ils utilisent des lances.
Bah, en fait,
et qu'ils peuvent créer, j'imagine, la technologie pour respirer en dehors de l'eau.
Mais en fait, il peut pas, si tu réfléchis... Il peut pas avoir la même technologie que Shuri parce qu'il est sous l'eau.
Bien sûr. Ouais.
Il peut pas avoir d'électricité ou des trucs comme ça, donc il peut pas s'amuser à faire.
Qu'ils ont l'air d'utiliser le vibranium plus comme un objet, comme une ressource naturelle.
Un outil, quoi.
Plus que comme une ressource technologique, en fait. Oui, comme un outil.
Ouais, voilà. On rencontre Riri Williams, donc Ironheart, qui donc t'as lu les Ironheart ?
Très peu, franchement, c'est.
C'est pas un truc comme quoi Tony Stark est mort, mais il est dans l'intelligence artificielle de la truc et donc il l'aide à construire, etc. Mmh. C'est ça un peu l'histoire, quoi. Ils auraient pu faire ça si Robert Downey Jr. avait eu besoin d'un chèque.
Je crois qu'il s'en sort bien, déjà.
Il fait quoi, lui ?
Bah,
il a essayé de faire Dr. Dolittle, il s'est ramassé. Je crois qu'il est dans le prochain Nolan.
Oui, tout à fait.
Ouais,
il est dans Oppenheimer.
Okay, il est dans le prochain Nolan. Mmh. Bon, bah, c'est bien. Sa carrière continue un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est un mec qui est... une énorme star que tout le monde connaît, etc. Mais en dehors d'Iron Man, est-ce qu'on peut citer peut-être Sherlock,
allez. Chaplin aussi, qui était un très bon film.
Ouais, mais ça, personne ne l'a vu de nos jours.
Oui, peut-être.
Voilà.
T'as les Sherlock, ouais, du coup, qui sont un peu sa
tu vois,
son
il a
autre
pas
grosse
eu,
franchise.
Il n'a pas eu depuis Iron Man, il n'a pas eu vraiment...
Si, bah, après, c'est encore un peu un film un peu plus...
Kiss Kiss Bang Bang.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais ça, c'est autre chose.
Bah, bien sûr.
Moi, je parle d'un gros
oui, des
gros
films.
Film,
bah, t'as eu ce Dr. Dolittle un peu hybride, bizarre, là.
Tu vois, Chris Hemsworth, je suis sûr qu'il pourrait avoir une petite carrière.
Ouais.
Bien que Chris Hemsworth, il fait des mauvais choix, quand même. Ghostbusters, Men in Black. C'est pas.
Ah, disons que pour le moment, je crois qu'il s'appelle Hacker,
d'ailleurs.
J'aime bien,
c'est que Chris Evans recommence à rejouer les connards, et étant donné qu'il est parfait pour jouer les... C'est marrant parce qu'il jouait le mec le plus lisse du monde dans le MCU, mais ses rôles les plus parfaits, c'est quand il joue les connards. Il est vraiment très très bon à ça.
T'avais Scott Pilgrim, t'avais même le...
T'avais les, comment ça s'appelait, Sex Academy.
Sex Academy, t'avais bah, même le film de Rian Johnson où il joue un...
Ouais, Knives Out. Très, Qu'est-ce que tu penses de l'arc d'Okoye, qui a une bataille super cool sur un pont, mais qui se fait virer des Dora Milaje.
Ouais, bah c'est le personnage, je trouve, le mieux traité du film, avec Namor peut-être, même s'il a quelques défauts Namor, mais... Okoye.
Je tiens à dire que Shuri est quand même pas bien écrit.
Non, Shuri est bien écrite, mais je la trouve meilleure dans la deuxième partie du film que dans la première. J'ai un peu de mal dans la première partie du film avec elle. Mais Okoye est touchante, marrante, badass. Enfin, genre sa scène avec Ramonda quand elle la licence, enfin la licencie pas, la démet de son rôle de chef des Dora Milaje, c'est la scène qui m'a tiré une larme du film. Enfin, franchement, c'est très très fort et elle a un arc de... Parce que c'était le personnage le plus proche presque de T'Challa dans le premier film. Ils avaient quand même une relation très, 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 très puissante, les deux. Et tu sens qu'elle la retrouve un peu avec Shuri différemment. Et elle a toujours ce rôle un peu de cousine ou de grande sœur un peu pour les personnages principaux du film. Et elle est toujours, toujours au top. Enfin, super actrice. Et...
Ouais, c'est elle et Kylian M'Baku.
Winston Duke.
Qui lui, M'Baku, il est excellent. On pourrait avoir un film sur lui, ça me dérangerait pas.
Ouais, ouais. Même une série vraiment... sur les Jabari, ça peut être très cool. En vrai, dans les montagnes, là.
Il est génial. Le pur charisme, le mec sûr de lui, qui fait des blagues, sans rire.
Je vous livre une petite anecdote. À chaque fois que Sofiane se marie dans la salle, en général, c'est une phrase de M'Baku.
C'est vrai, en plus. Hein.
Quand il débarque en mangeant sa carotte, ou je sais pas voilà. Ce qu'il mange, il balance des phrases.
Je suis un excellent fan parce que c'est. C'est le mec que tu pourrais croire que c'est un gros fouteur de merde, ouais. Etc. Un gros troll, mais il est là quand on a besoin de lui. On a besoin de lui, il est là. Mais il continue à garder ce caractère-là, quoi. Tu vois, c'est.
Et c'est d'ailleurs un des plus gros ressorts comiques du film, qui passe très bien. Ouais. Et l'humour est plutôt bien dosé.
L'humour est bien joué, bien dosé. Pour une fois, on n'est pas dans du Marvel. Non, on n'est pas. Et j'avais limite un peu de problème par moment dans le premier vis-à-vis de ça.
Moi aussi.
Tu sais, quand elle lui dit « Ah, c'est quoi tes chaussures ?» et ouais. Tout, là. Enfin, tu vois, ce genre de blague. Là, je trouve qu'au niveau... surtout qu'on vient de se taper un Thor 4, ça n'a rien à voir au niveau de la manière de gérer les.
Alors que t'as une blague sur le phare à paupières, mais qui passe super bien dans la scène. Enfin, elle est super drôle. Parce qu'Okoye, il la joue très bien. Enfin, Danai Gurira la joue très bien, mais disons que... Ça peut être des blagues hyper lourdes comme ça qui, dans un autre film, passeront pas du tout, mais là, elles sont bienvenues presque.
Tiens, il y a une petite référence à Daniel Kaluuya qui n'est pas dans le film.
C'est vrai.
Pourquoi il n'est pas dans le film ?
Bah, je pense qu'il était sur d'autres projets, et puis son personnage était En tout cas, il est évoqué. Donc,
ils disent que le personnage a été banni.
Ouais, c'est ça. Hein.
Après avoir été du côté de Killmonger.
Non, mais tu vois, encore une fois, c'est un personnage qui n'est pas forcément voué à revenir, mais par rapport au personnage d'Okoye, ça a de l'intérêt de l'en reparler dans la scène où ils en parlent, parce que justement, ça apporte du background au personnage d'Okoye, et justement, bah, tu rappelles aussi ce truc-là que, oui, il y a eu une période où bah, même Okoye a fait des erreurs, tu vois, et avec elle et son mari d'ailleurs, ça a eu des répercussions, quoi, genre, c'est pas oublié.
En parlant d'embrouille, il y a eu une grosse embrouille. Pendant le tournage de ce film, Laetitia Wright, qui joue Shuri, refusait de se faire vacciner. Donc, ils ont utilisé l'excuse officielle, c'est qu'elle s'est blessée pendant le tournage et donc ils ont dû repousser le tournage. Mais
je crois que la blessure est vraie et qu'elle a eu une sacrée
blessure. Elle s'est blessée en plus. Alors, ils ont déjà dû repousser à cause du. Elle s'est, donc, les deux. Parce que je sais qu'il y a eu aussi une grosse histoire de elle voulait pas se faire vacciner.
Non, mais ça, c'était un truc.
Et donc, ils ont dû repousser le tournage au maximum jusqu'à ce qu'elle accepte de se faire vacciner ou un truc comme ça. Et donc, j'imagine que c'est pas génial quand ton actrice principale refuse de se vacciner. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Parce que c'est limite obligatoire sur ce genre de tournage, quoi. Tu vois,
et surtout qu'on était dans une situation où bah, c'était encore un peu flou sur plein de choses, et du coup, bah, c'est vrai que ça paraissait un peu bizarre qu'elle refuse comme ça, alors que bah, il y a quand même des enjeux. Enfin, t'es sur un plateau de production, il y a plein de gens.
C'est étonnant une jeune actrice comme ça, la plupart. Tu vois, si ça avait été un vieux con, ça m'aurait pas étonné.
Genre le père d'Angelina Jolie.
Oui, pourquoi pas. John Voight. Non, je pensais à Martin Freeman, le vieux con c'est le seul vieux dans le. Oui. Il a 51, mais il est en couple avec Valentina
Allegri de Fontaine,
qui est incarnée par Julia Louis-Dreyfus, qui elle est plus vieille par contre.
Oui.
Alors 10 ans de plus.
Ouais, au moins 60 ans, je dirais.
Avoir 10 ans de plus, je pense.
Mais là, ça mèche violette pour faire Jones.
Ouais,
qui est, du coup, ouais, on en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure, c'est peut-être la première fois qu'elle a un vrai rôle dans un film, parce qu'elle apparaissait dans une scène post-générique et après dans des séries Marvel. Donc, la première fois qu'elle est vraiment introduite, et bon, tu sens qu'elle va avoir de l'importance pour la suite et qu'elle va prendre un peu le rôle de Nick Fury, mais côté négatif de la chose, quoi. Et bon, elle est pas très. En vrai, c'est une partie du film que tu pourrais enlever sans que ça gêne l'histoire, et limite, ça pourrait justement la resserrer et faire un film un peu moins long. Parce que
si le film s'était consacré sur les États-Unis et qu'il n'y avait pas Namor,
là,
elle était vraiment utile.
Ouais, ouais, carrément.
Mais le fait qu'il y ait ces deux plots en même temps, ça plus Riri, en fait, tu te dis, t'aurais pu vraiment te. Tu te concentres sur le Wakanda, mais Namor, il fallait bien qu'il soit introduit un jour, de toute façon.
Et donc.
En fait, c'est. Tu fais pas un. Bon, il y a du gras à virer dans ce film.
Oui, oui,
il y a énormément de gras. Il y a quand même un moment où j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé. Et je fais, il n'y a qu'une heure de film qui est passé là. Parce que c'est un film qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. C'est un film qui est. Enfin, les gens se plaignent. De nos jours, les films comme Thor et tout, c'est que de la bagarre et on se fait chier.
Il
n'y
en a pas tant que ça dans ce film.
Alors que dans ce film-là, c'est essentiellement une étude du deuil.
Ouais.
C'est essentiellement une étude du deuil, une étude de ce que c'est. De ce que c'est de reprendre le flambeau, de perdre ta mère, de perdre ton frère.
C'est ton héritage.
Il y a un auditeur qui demandait sur Discord si on trouvait pas que la mort de la mère
était de trop.
Non, enlever, rabaisser la mort de Chadwick Boseman. Je me suis dit, bah non, pas vraiment.
Non, je comprends pourquoi ils la font mourir à ce moment-là du film pour le personnage de Shuri, parce que t'as aussi besoin de lui apporter aussi de.
Ouais, et puis Angela, elle surjouait trop, donc il fallait la virer.
Non, elle surjouait pas Angela, elle est à fond. Elle
comment
est Mais.
Non, mais c'est vrai qu'elle est tout le temps en train de gueuler. Oui. Elle en fait des tonnes, donc ça fait la mama africaine, hein, je comprends, mais.
C'est une reine, enfin, je trouve
c'est vraiment la reine.
Elle a une carrure
d'or. Oui, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Les scènes au début aux Nations Unies, elles sont.
Ouais, elle pourrait être dans le clip Remember the Time de Michael Jackson.
Ouais, c'est ça, elle a de la carrure, enfin, elle est. Elle a de la prestance.
C'est juste qu'elle. Bah, de toute façon. Enfin. Le nombre. Enfin, toutes les femmes dans ce film déchirent, quoi.
Oui,
c'est
non,
vrai qu'on n'a pas. La pauvre Lupita, qui est toujours excellente, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème.
Qui est sous-exploitée un peu dans ce
film. Sous-exploitée complètement.
Qui arrive un peu tard, en fait.
Qui arrive tard.
Mais tu
son personnage. Le problème de son personnage, c'est que c'est un personnage un peu banal, en fait.
Non.
C'est l'espionne, quoi.
Je suis pas d'accord. Je pense que son problème, c'est. La relation qu'elle avait avec T'Challa dans le premier film, en fait, qui était floue.
Ouais.
Et du coup, qui fait que là, quand elle revient, bah déjà, elle arrive tard dans le film, tu te demandes pourquoi elle n'est pas là aux obsèques. Enfin, tu sens qu'elle est absente, parce que. Enfin, moi, c'était mon personnage préféré du premier film, personnellement. Je la trouvais trop cool et.
Ah, mais c'est parce que t'aimes Lupita, ça aurait
non,
été
mais,
une autre actrice.
Hors de ça, j'aime beaucoup le personnage de Nakia dans les comics Black Panther. Et du coup, bah forcément, tu sais, t'as une attente de la voir revenir. Elle est sur les affiches, elle est sur les promos, enfin, elle est quand même bien mise en avant, Lupita Nyong'o. Et elle arrive un peu tard et c'est dommage parce que bah, tu sens qu'elle a des choses à dire, notamment sur son deuil de Black Panther, elle aussi, parce qu'elle ne le vit pas de la même manière. C'est son mari, presque. Enfin, c'est son homme, quoi. Et ça arrive un peu tard, c'est un peu frustrant.
Ouais, et bah, comme tu disais, ça souffre. Dans le film précédent, c'est son ex.
Bah, ils ont une relation, ils sont encore très liés, mais ils ne sont plus ensemble parce qu'en fait, chacun a pris des directions un peu différentes. Lui, il a le poids du pouvoir qui fait que bah, il a ses responsabilités. Il doit, entre guillemets, être à 24 heures sur 24 sur le sujet. Et elle ne veut pas non plus devenir juste une personne de la cour parce que tu sens qu'elle a quand même un espèce de... Pas un rejet du Wakanda, mais elle a besoin de s'en éloigner, de faire d'autres choses. C'est pour ça qu'elle espionne, qu'elle va à travers le monde et que maintenant, bah, elle est même basée en Haïti et elle fait sa vie là-bas presque. Enfin, elle a recréé une vie, une bulle en dehors du Wakanda, quoi.
Haïti, c'est un très bon choix.
Oui. Et d'ailleurs, enfin, il y a plein de symboliques autour de ça.
Ouais, bah le fait que le gamin s'appelle Toussaint, d'ailleurs, je te l'ai dit direct.
Oui, oui, oui.
Je fais un bon choix, ça, Toussaint. Comme je disais, j'ai vécu en Guadeloupe. C'était à l'époque des 100 ans ou 150 ans de la fin de l'esclavage ou un truc comme ça. J'étais petit, hein. Et donc j'avais beaucoup entendu parler de Toussaint l'ouverture et des trucs comme ça, des révoltes d'esclaves dans les Antilles et tout. Et c'est très intéressant et on n'en parle pas vraiment, même dans nos bouquins d'histoire à nous, alors que c'est quand même francophone, c'est quand même ça a lancé le mouvement dans les îles, quoi, tu vois. Et au final, Au final, c'est bien, c'est un bon petit. C'est très Cooglerien, quoi.
Oui.
C'est
oui,
très,
oui,
très Cooglerien.
Non, mais t'as aussi besoin de ce genre de personnes qui puissent aussi te ramener des références que un public différent n'aura pas et justement le pousser à se renseigner dessus aussi un peu, c'est bien.
Ouais. Avoir un peu d'ouverture le c'est jour ça, de la Toussaint. Alors, il y a une scène que je pense qu'on peut virer en entier, et c'est une scène très longue. C'est toutes les scènes dans le labo où elle refait l'herbe et tout. Ouais. Et l'autre, elle fait son armure en même temps et ils font les armures.
Ah, le training montage.
Ils font les armures pour recueillir et tout. Voilà, c'est du Creed. Hein.
Oui.
Mais je trouve que c'est trop long et ça enlève la surprise au final.
Oui, tout à fait.
De voir Ironheart se pointer, de voir leur armure dégueulasse, là, Odora Milaje.
Enfin, dégueulasse. Je sais pas si elles sont dégueulasses, mais disons qu'elles font vraiment.
Bon, elles font animées, quoi. Je trouve pas qu'elles ont un petit côté. Même Riri Williams, c'est... même son armure à elle, elle fait très.
Fait très
Jap animation des années 80, quoi. Tu vois. Ouais.
Mais c'est que ça fait presque trop. Trop lisse. Enfin, ça ne matche pas avec le reste, en fait, de ce qu'on t'a présenté, je trouve. En termes de. Bah, juste de combat des Wakandais et tout ça.
Ouais, je
mais
vois
tu sens que Shuri va amener sa patte aussi, tu vois. Genre, c'est...
Je vois ce que Coogler veut dire. Coogler, en fait, ce qu'il veut te montrer dans ce film-là, c'est que il faut mélanger la technologie avec la tradition. Que les deux, le futur et le passé, ouais, doivent vivre ensemble.
Joint,
Et donc, c'est tout le but du film, c'est de te parler de ça, en fait. C'est de dire à Shuri, sors un peu de tes ordinateurs, va brûler tes tenues le jour de... Enfin, un an après le deuil, il faut que tu brûles la tenue de l'enterrement, ce genre de tradition.
Le côté spirituel, en fait.
Ouais, voilà.
C'est ça. Allier le côté spirituel au côté technologique pour justement trouver un équilibre et pas être que dans l'un ou que dans l'autre. Tout à fait.
Tu sais que le film a été censuré en Chine ?
Eh oui.
À cause d'un bisou ?
Oui, bah c'est un peu la...
Il est vraiment à un quart de seconde encore une fois.
Oui. Surtout qu'elle lui dit... Enfin, c'est la seule scène du film qui te fait comprendre qu'ils sont ensemble, parce qu'ils ont une autre scène où elles parlent, les deux Dora Milaje, dont une qui est jouée par Michaela Cole, là, qui jouait dans I May Destroy You.
Ah, moi, je suis désolé, mais tu me mets des femmes chauves habillées pareilles, j'ai un peu du mal à savoir qui est qui au bout d'un moment. Sans
ouais,
déconner.
Je connais quelques actrices, du coup, genre, je les ai reconnues et puis je
crois qu'il n'y a pas une qui s'appelle Ayo ou un
si,
truc comme
ça.
Voilà.
C'est la nouvelle chef des Dora
Milaje.
Voilà,
il y a elle, je m'en souviens, mais sinon, c'est vrai que les autres, je ne l'ai pas forcément.
Il y a une seule scène de dialogue où tu comprends qu'elles vivent ensemble, en fait, mais c'est vrai qu'elles s'embrassent, du coup, où il y a un petit mot tendre d'échanger, mais il y a vraiment.
Elles sont toutes grandes aussi, non ?
Oui.
Ouais. Un des trucs pour
je pense
casté.
Que Michaela Cole est peut-être la plus petite des Dora Milaje du casting. C'est la nouvelle, en fait, celle qui a les petits poignards que lui donne Shuri.
Ça, c'est dans les comics, les Dora Milaje ?
Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Ah bah oui, c'est la garde royale,
avec
en fait.
Avec le même look et tout.
Ah, et en tenue rouge, comme ça, ouais.
C'est une très bonne idée.
Ah, elles sont trop cool.
C'est une des meilleures idées. Ouais.
La petite phrase d'Okoye sur la lance, là, quand elles sont dans la base au Mali, c'est trop cool aussi.
Bon, Okoye, de toute façon, elle a les meilleures scènes d'action. Parce que les scènes d'action sont pas géniales dans ce film.
Bah, en fait, elles sont très banales. Enfin, c'est là où dans le premier film, tu avais un petit peu d'originalité sur la mise en scène et sur deux, trois trucs, notamment la scène de combat au début sur la fontaine, là, où qui revient d'ailleurs dans le film un peu plus
sur
tard.
Sur la Valentina.
Oui, si tu veux, la Valentina des fontaines. Mais ouais, c'est un peu décevant sur ce point de vue-là, je trouve, de la part de Coogler.
Bah écoute,
parce que le premier film, t'as la scène du trône qui se renverse avec.
Oui, mais ça, c'est un plan, je veux dire.
Ouais, mais enfin, tu sais, t'as des plans iconiques qui restent, t'en as pas trop dans ce film-là, je trouve. T'as pas de grandes scènes un peu. À la limite, c'est avec Namor qu'il y a des scènes un peu comme ça, ou celle où il descend un peu dans la pénombre, dans l'obscurité.
Il fait trop nuit, on voit rien.
Ouais, mais quand ils sont sous l'eau, je peux le comprendre parce que la lumière est pas censée aller très profond sous l'eau. Enfin, tu sais, t'es censé être quand même dans l'obscurité sous l'eau, et en fait.
Comment il y a des petites sirènes noires alors ?
Des petites sirènes noires ?
Bah ouais. Il y a une petite sirène noire là bientôt qui va sortir. Si la lumière passe pas dans l'eau, comment est-ce qu'elle est noire ?
Je me pose trop de questions. Peut-être qu'elle vit dans
Disney,
des eaux.
C'est Disney.
Elle vit dans des eaux peu profondes.
Elle vit dans des eaux.
Aux Caraïbes, je ne sais pas.
On parlait des batailles et des trucs comme ça. Il y a une bataille avec un gros bateau. En vrai, moi personnellement, je préférerais qu'il n'y ait aucune scène d'action.
Oui, c'est.
Que ce soit une pure. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait Coogler, là, dans ses films. Il fait des études de personnages. Tu vois ? Il se penche vraiment sur le personnage, un peu comme Iron Man 3 se penchait sur Robert Downey Jr. Sur Iron Man, tu vois. C'est. Il n'y en a pas assez des films comme ça dans l'MCU, des films qui vraiment se posent et discutent. Tu vois, genre, on se pose et on parle, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Je sais que pour la plupart des gens, ça va être chiant comme la pluie. Mais. Mais quand tu vois les scènes d'action qu'on nous propose dans le MCU, je me dis, en fait, tu pourrais régler tout ça...
Par des bonnes discussions autour d'une table, quoi.
Une bonne conversation, tu mets 2-3 scènes d'action par-ci, par-là, mais t'es pas obligé d'avoir la grosse bagarre.
Ah, là, ça fait vraiment... Tu sens qu'il y a, encore une fois, enfin, on le dit à chaque fois, et c'est un peu fatigant, en fait, à la longue, de devoir le redire, mais le cahier des charges avec la grosse bataille finale, avec le gros bâtiment principal où forcément tout le monde va être dessus. Il faut le défendre, ça s'attaque. À côté, t'as les deux personnages principaux qui s'affrontent un petit peu en décalé.
Il n'y a pas de MacGuffin dans ce film.
C'est vrai qu'il n'y a pas de MacGuffin.
Ce qui est plutôt rare.
T'as l'herbe-cœur quand même, qui est au centre du film et
ouais,
qui
mais
a un truc.
Il n'y a pas un objet que les deux veulent se battre pour l'objet, en fait, quoi.
Mais même dans le premier film, j'ai pas l'impression que Ryan Coogler soit intéressé par ce genre
non,
de truc, en fait. Je pense pas que... Il n'est pas dans ce genre de manière d'écrire. Parce
mais là, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de MacGuffin.
Thor 4, il y a quand même...
La gamine.
Oui, bah non, mais enfin, pas la gamine, mais disons que t'as quand même plein d'éléments dans le film qu'il faut rechercher, que ça soit le Mjolnir pour Jane. Que
ouais, mais il n'y a pas un objet, tu sais, comme le gant de l'infini, comme les pierres de... Tu sais, à une époque, les deux premières phases, c'était que des MacGuffin.
Tu recherches des objets,
c'était que des MacGuffin pendant tous les trucs. Pareil, même Guardians, qui est un très bon film, c'est un film qui repose autour d'un MacGuffin.
Mais parce que peut-être on change aussi de logique, et là on est plus dans un truc de... Bah, vu qu'il travaille sur le multivers, il y a moins besoin d'objets que sur un truc où c'est un gant avec des pierres que tu mets dessus, tu vois, genre t'es moins dans ce genre de logique-là. C'est pas plus mal d'ailleurs hein, que ça rafraîchisse un petit peu sur ce genre de thématique-là, parce que c'est vrai que les MacGuffin, on a bouffé, quoi.
Tu penses quoi de la sorte de romance entre Shuri et... Et Namor.
De romance ? T'as vu une romance, toi ?
Ah bah, ce rêve bleu !
Ah non, je l'ai vraiment pas vu comme ça, moi.
Un peu ? Tu trouves pas que toutes les scènes où ils se promènent dans la ville, c'est un petit peu... C'est parce qu'on est...
Non, pour moi, t'es...
C'est parce que Laetitia Wright ressemble tellement à une gamine que...
Non, pour moi, c'est plus... T'es dans un espèce d'émerveillement où Shuri, en fait, découvre
que... Je pense qu'il la dragouille.
Pour moi, il la drague pas, parce qu'en fait, ils ont pas du tout ce rapport-là. Et puis même, quand tu vois comment ils se mettent sur la tronche, il n'y a pas ce genre de ressenti où tu as un petit peu mal de mettre des coups à l'autre parce que justement, tu as de l'affection pour... Ils ont plus du respect l'un pour l'autre que de l'affection. Enfin, en tout cas, du point de vue de Namor, je ne l'ai pas ressenti comme ça.
J'ai lu pas mal de messages qui disaient qu'ils avaient ressenti un petit...
Ah ouais, je suis vachement surpris. Ouais. Moi, je ne l'ai pas ressenti en tout cas, donc peut-être, hein, mais... Je ne pense pas qu'ils vont développer de relations... Ce serait pas inintéressant, hein, mais je l'ai pas ressenti. Ça me surprendrait en tout cas là. Mais...
Donc Shuri devient Black Panther. Mm-hmm. T'aurais préféré que ce soit Nakia ?
J'aurais aimé dans mon fort intérêt que ça soit Nakia, mais comme on en avait parlé tous les deux en sortant de la salle, effectivement, ça n'aurait pas eu de sens dans ce film-là de faire de ce personnage-là Black Panther, même si.
Ça fonctionne tellement. Enfin, l'arc tout entier du film est basé sur le fait que Shuri accepte son origine.
C'est totalement. Enfin, c'est vraiment bien comme ça et il fallait que ça reste comme ça. Ouais. Mais j'avoue, j'ai eu. Truc parce que moi je militais pour que ça soit Nakia, et quand tu vois la scène où justement Nakia arrive auprès de Shuri quand elle arrive à mettre au point l'herbe, tu les vois toutes les deux et je me suis dit, est-ce qu'elle va lui donner en mode moi je ne veux pas de Black Panther, et
il y a deux masques hein, dans la scène,
ouais il y a deux masques en plus.
À un moment je me suis posé la question, est-ce qu'elles vont pas décider
mais au final non, ils restent sur ce principe là et c'est en vrai bien mieux comme ça. C'est plus des délires de fans dans sa tête qui a envie de voir des choses qui se passent, mais quand ça se passe vraiment, bah t'es déçu. Et là, au final, j'ai pas été déçu que ça soit Shuri qui reprenne le costume et qui tu sens que son personnage évolue, parce que justement, elle rencontre quand même Michael B. Jordan. Il y a quand même cette scène dont on n'a pas parlé encore. Et tu sens que elle s'endurcit un peu, là où dans le premier film, c'était un personnage secondaire très marrant, très frais, mais qui savait aussi se battre, hein, qui montrait qu'elle était costaud, mais...
C'est pas une action hero. Quoi.
C'est ça. Et là,
elle est plus proche du Ned que du Spider-Man.
Et en termes d'intensité de jeu, je trouve qu'elle est vachement mieux dans la deuxième partie de film quand elle devient Black Panther, même si c'est même plus la troisième tiers du film, on va dire. Mais elle manque un peu de physicalité dans son jeu, c'est plus ça. Mais je suis.
Bah, disons qu'elle a été castée pour jouer une geek.
Ouais, c'est ça.
Enfin, elle a le physique de la meuf qui passe plus son temps devant l'ordinateur que. Mm. Laetitia Wright, c'est le genre d'actrice qui fera toujours jeune enfant, quoi, dans son style. Mm-hmm. Elle fait très.
Elle a une morphologie très fine,
voilà,
très enfantine.
Elle est très, très fine. Ça se voit beaucoup dans le costume, d'ailleurs, où elle est vraiment, vraiment toute fine. Et en tout cas, bon, le choix, c'était soit Nakia, soit on ressuscite Killmonger et aller en voiture Simone.
Ouais, ils auraient pu, dans un monde, mettre Okoye aussi, mais.
Okoye, ça aurait été trop cool.
Bah oui, ça aurait été cool. mais en vrai, après, c'est plus une question de logique par rapport au côté royauté aussi du Wakanda qui fait que bah, ça n'a pas trop de cohérence.
M'Baku.
M'Baku, tout à fait. Il faut trouver un gros costume.
Tiens, bah, en parlant de Killmonger, on parlait de Killmonger, ouais. Là, c'était un moment que j'attendais pendant tout le film. Ils n'ont pas Chadwick, donc
oui.
Forcément, quand elle va aller dans les...
Il était annoncé. Hein,
et c'est une bonne, très très bonne raison, en fait.
C'est presque un peu court. J'étais un...
Ouais, mais tu vois, c'est genre, elle s'attend à voir son père, et son frère, son père, sa mère, tu vois, quelqu'un comme ça. Et elle voit...
son cousin.
Le Black Panther guerrier.
Ouais.
Celui qui partait en guerre, celui qui se laissait pas faire, celui qui était contre le reste du monde.
Parce que, qui était dans la vengeance. Hein.
Dans la vengeance,
il y a tout ce côté-là qui est mis en avant.
Et donc, Coogler l'a très bien amené. Très, très bien amené. C'est pas genre juste hey, « Salut, je suis Killmonger et on a cette petite scène. » Ça fonctionne avec les thèmes du film. Et c'est un plaisir de revoir Michael B. Jordan, hein, je vais pas mentir.
Et c'est presque une des scènes les plus visuelles aussi. Parce que t'as les flammes qui arrivent au bout d'un moment autour d'eux, ils sont dans la salle du trône, enfin, y a un truc un peu... Tu sens que t'es dans un côté, pas cauchemar, mais t'es dans une vision, donc il y a quand même un côté réalité déformée autour. Et l'échange marche bien dans cet environnement-là, enfin, c'était cool. Et ça faisait plaisir de revoir Michael B. Jordan, parce que c'est vrai qu'il avait quand même marqué le premier film de son empreinte, quoi. Puis c'est l'acteur fétiche de Ryan Coogler aussi, quoi. Donc.
Ouais, il est dans tous ses films.
Ah oui.
Il y a une... membre de la tribu de Namor qui s'appelle Namora. Voilà.
Tu disais que c'était sa cousine, j'ai pas vu cette info.
Non, c'est la cousine de Sirena dans Pirates des Caraïbes.
Les auditeurs de la saga seront...
M'Baku devient roi ?
Oui, ça c'est bien.
Ouais.
C'est cool.
Très certainement, hein. Ouais, c'est lui le roi.
C'est clairement, enfin, c'est pour moi, c'est.
J'ai hâte de voir quand il va se pointer aux Nations Unies et tout. Hein. En faisant ouh, en arrivant comme ça, en se tapant sur le torse. ouais.
Non, mais disons qu'il a une. Dès le premier film, t'avais quand même cet aspect autour de ce personnage-là qui avait cette envie de pouvoir et qui en même temps était très respectueux de tout ce qui fait des traditions et de tout ce qui fait le Wakanda. Et là, tu sens qu'il a aussi atteint peut-être un niveau un peu plus de sérénité, où il est moins dans le ressentiment, notamment par rapport à T'Challa qui est parti et qui s'occupe un petit peu de Shuri via la promesse qu'il a fait à T'Challa. Et du coup, il paraît un peu plus sage et un peu plus, même s'il reste brut, il paraît plus sage. Et tu vois pas Shuri en reine. Elle a pas cette envergure-là. Son personnage n'a pas cette envergure-là. C'est plus une geek justement, voilà qui va bosser sur son costume et qui va défendre le Wakanda, mais qui va pas le représenter de manière officielle, si ce n'est en tant que princesse. Et je pense qu'elle est plus dans ce titre-là, ça lui va mieux que reine. Enfin, je pense pas qu'elle fonctionnerait dans cette position-là. Je sais pas.
Bah, bonne question. Mais M'Baku, là, au moins, s'il y a une guerre avec les États-Unis, je suis sûr qu'il va pas se laisser faire.
Ah non,
quoi.
C'est clair.
Alors là, c'est peut-être même lui qui va la commencer. Tiens. on a donc, on en a parlé, on a le petit frère, on a le fils de T'Challa, qui a le grand sourire à la Chadwick Boseman.
Ouais, il a une bouille, franchement, il est touchant juste parce qu'il a ce petit côté qu'avait Chadwick, ouais, c'est vrai.
Tu penses que ça va être quoi la suite pour Black Panther, toi ?
Bah, j'aimerais bien.
La prochaine fois qu'on va la voir, ça va être dans les Avengers ou des trucs comme ça ? Où ils vont préparer un 3 d'ici là.
Je pense pas que le 3 sera annoncé d'ici là.
Et est-ce que Coogler a envie de revenir aussi ? C'est ça le truc. Parce que c'est quand même son bébé. Hein.
C'est son bébé et je pense que... Enfin, il en a beaucoup parlé en interview pour la promotion du film. C'est que ça a été extrêmement dur pour lui d'écrire le scénario de ce deuxième film après la mort de Chadwick. Parce que il avait des plans à la base qui étaient justement d'explorer le deuil, mais de Chadwick... Enfin, du personnage de Black Panther absent pendant 5 ans avec le blip. Donc, d'avoir vraiment des répercussions importantes.
Putain, ça aurait été bien.
D'avoir des répercussions importantes sur qu'est-ce qui s'est passé au Wakanda en l'absence de son roi. Et en fait, le sentiment presque de culpabilité de Chadwick de revenir, enfin de T'Challa, pardon, de revenir après 5 ans et de voir l'état dans lequel il a laissé en son absence, en fait. Et donc, le deuil de son absence plus les répercussions de son retour, avec son retour. Et Namor devait être dans le film déjà de base et du coup peut-être se confronter avec à la place de Shuri avec avec comment il s'appelle, Namor du coup. Mmh. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était obligé de réécrire son film en cours de chemin, et tu sens qu'il y a du bricolage, mais il y a aussi de la vraie réécriture pour adapter au vrai deuil de Chadwick. Mais ça aurait été intéressant d'avoir un vrai film sur les répercussions du blip, quoi.
Bah, il y en a pas eu.
Non. Non, non, bah c'est ça. Si, t'as...
Pour moi, il y aurait dû y avoir un film blip, en fait.
Bah, le film blip, c'est Spider-Man 2. Hein.
Ou ah, Far From Home.
Ouais.
Ah. Si tu me dis Spider-Man 2, moi, je pense au vrai.
Oui, c'est vrai, pardon.
Ouais, il y a pas eu vraiment... Il y a eu des petites scènes par-ci, il y a eu Yelena, il y a eu Monica Rambeau, il y a eu des petites scènes de déblip ou de reblip.
Ouais, t'as
ou...
des petits biscuits à droite à gauche, ouais, mais t'as pas le gâteau...
T'as pas eu de vraiment focus sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans pour, par exemple... Il y avait qui comme super-héros? Parce que c'est vrai que tous les super-héros avaient disparu, il restait plus que les Avengers qu'on voyait. Mais ça aurait été intéressant. Pareil,
le
prochain Guardians aurait pu être super intéressant. Mmh. Mais bon, il reste plus Rocket. Ça aurait été 5 ans de Rocket qui boit. Il est en dépression totale. Qui va au zoo, qui voit des ratons laveurs.
Quelle horreur. Je ne suis pas un raton laveur.
Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu la scène où Rocket rencontre des ratons laveurs. Mmh. C'est quand même un peu triste.
Bah, sachant que le troisième Guardian est censé être un peu axé sur lui.
Sur lui, ouais. Ouais, mais on n'a pas eu... Parce qu'il était sur Terre pendant 5 ans, hein, quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Donc on peut se poser la question, il y a bien forcément quelqu'un qui a dû lui dire « Tiens, une photo de raton laveur, quoi. » J'aurais bien aimé voir sa réaction, ouais.
Ouais.
Bah ouais, ma Black Panther 3, j'espère vraiment que ça va être soit Wakanda contre CIA, soit Wakanda contre Nations Unies. En fait, qu'il y ait une guerre, quoi.
Mmh.
Qui est vraiment...
Un conflit ouvert avec le monde, quoi.
Ouais, et il faudrait à ce moment-là qu'on montre vraiment qui sont les Américains, quoi. Parce que Coogler, il fait vraiment des petites piques dans ces scènes-là, en disant la différence, c'est que qu'est-ce que vous feriez si vous aviez du vibranium? Vous ne feriez pas comme nous. Vous imposerez votre...
Bah, t'as une phrase de Valentina, d'ailleurs, qui est pendant le film, quand Ross lui dit... Mais t'imagines si les États-Unis, enfin une nation comme les États-Unis, avait tout le vibranium, elle fait, mais j'en rêve en fait, tu vois, genre avec un petit sourire machiavélique, c'est un peu caricatural, mais tu sens un petit peu le message qu'il peut y avoir derrière, justement, si une grande puissance comme les États-Unis se retrouvait dans cette position-là. Quoi.
Si un certain Harrison Ford,
avec une moustache,
se retrouvait avec du vibranium, parce que ça va être lui le grand personnage qui représente les États-Unis maintenant, je pense. Ross. Ça va être, c'était déjà le cas de toute façon.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que je vois pas Harrison Ford jouer un personnage comme ça sur le long terme, en fait, parce que
je crois qu'il va mourir dès le film.
Bah, je pense qu'il, enfin, si on le voit, il va pas passer le film, en fait, parce que déjà c'est un recast.
Non, mais c'est un recast où tu up quand même le truc.
C'est pas faux, mais
tu fais un petit level up, hein, quand même.
D'ailleurs, ça me fait penser, on a deux Ross dans les personnages militaires Marvel.
Ouais, je me suis dit la même chose hier. Ouais.
Thaddeus Ross et l'agent Ross, je sais même pas ce que c'est son prénom à Martin Freeman dans le film. C'est l'agent Ross, quoi.
Chris Ross.
Chris Ross. Chris Rock.
C'est quoi le prochain film?
Notre prochain film, si on compte pas le Holiday Special des Guardians, ça sera en février, je crois, et ça sera Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Bon, non, mais Morbius et Black Adam seront entrecalés là-dedans.
Oui, bien sûr.
Pour mon anniversaire.
Ouais, bien sûr. C'est quand ton anniversaire?
Janvier.
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 Donc le prochain, c'est... Excuse-moi, j'ai écouté.
Ant-Man Quantum Mania.
Ant-Man Quantum Mania.
Ant-Man and the Wasp Quantum Mania.
Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, qui a un nom de catch, enfin de combat de catch. Quantum Mania.
Quantum Mania. Oui, c'est vrai.
Donc on va voir Kang.
On va voir Kang, enfin.
Enfin, ce sera la deuxième fois qu'on verra Kang.
Non, on l'a pas vu encore.
Ouais, mais bon. On verra Kang.
On verra Kang, ouais.
Il y a des rumeurs sur ce que c'est le synopsis, déjà
Oui, bah, c'est plus ou moins explicite dans la bande-annonce. Hein. On comprend que la fille de Ant-Man a créé une espèce de enfin, pas un logiciel, mais une espèce de signal, en fait, qu'elle envoie dans le Quantum Realm. Et du coup, en fait, bah, ça va les envoyer dedans parce qu'ils vont se retrouver reprojetés dedans d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ils se retrouvent bloqués dedans une nouvelle fois et ils vont devoir s'en sortir. Sauf qu'ils vont découvrir qu'il y a Kang, quoi. Et dans les
Qu'est-ce qu'il fout là, Kang ?
Mais dans les bandes annonces, t'as l'impression quand même de comprendre que bah, Michelle Pfeiffer était au courant qu'il y avait ce personnage-là qui était présent quelque part. Quoi, donc,
elle va enfin servir à quelque chose.
On va voir les Micronautes, on va voir plein de choses marrantes. Tu vois.
C'est vrai qu'il y a Michelle Pfeiffer dans cette saga.
Et oui, et pas qu'elle. Hein. C'est une des sagas, enfin, des Ant-Man.
Ah, le cast n'est pas dégueu.
Il y a des castes de malades pour des filles.
Ils ont recasté la fille, j'ai vu. Hein.
Oui, tout à fait. Mais c'était, ouais. Ça avait été annoncé déjà. Ouais. Mais très curieux de ce qu'on voit des bandes-annonces, Kang... Moi, c'est la motivation pour ce film, hein, comme beaucoup de gens, je pense, hein, même si j'adore Scott Lang. D'ailleurs...
Il n'y a pas un DC qui sort entre deux ?
Un DC, là ?
Flash, il sort quand ?
Bonne question. Je pense que même DC
il
ne sait pas...
Il va bien sortir un jour, Flash, quand même.
Je pense que Warner ne sait pas quand ils vont sortir ce film. Ouais. Mais petit détail que je crois avoir chopé pendant la séance de Black Panther, la deuxième fois. Tu sais, quand il y a le journaliste américain de la CNN qu'on voit à l'écran, dont j'ai mangé le nom, il y a des bandeaux qui défilent en bas et je crois qu'il y a encore une référence à Ant-Man et à son podcast, ou en tout cas à les bouquins qu'il a sortis depuis.
Il est partout, lui.
Oui, parce que j'ai vu passer un Little Guy, donc je me dis... Ouais. Il me semble que c'était un des noms qu'on entendait dans Miss Marvel ou je sais plus quoi sur...
Le nom de son podcast, c'était Little Guy Big Something.
Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, je pense que ça va encore être bien mis en avant...
Personnellement, j'écouterais bien un podcast de Paul Rudd qui parle comme ça.
De Scott Lang,
Même Paul Rudd.
Mais avec la voix de Paul Rudd,
même
tu
si
vois,
Paul Rudd avait un podcast, ça me dérangerait pas. Quoi,
oui, c'est clair.
Un mec qui est toujours très. Il est naturel et marrant. Mm. C'est vraiment un des bons gars, et je vais dire ça, et on va aller sur
c'est
Twitter.
C'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire.
Sa femme, ou un truc comme ça.
Horrible.
Donc, ouais, il n'y a même pas de DC entre deux. Qu'est-ce qu'ils font?
Bah Warner est un peu dans la sauce. Hein.
Ça a marché Black Adam ? Non.
Pas,
je crois que ça a chuté en deuxième semaine, hein, si je me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ?
Ah, je viens de voir le prochain film d'ici qu'on va se taper.
Vas-y.
Shazam 2.
Hey oh, ça peut être marrant, Shazam 2.
T'as pas vu la bande-annonce, toi.
Ah non, j'ai pas vu.
La rage des dieux.
Ah non, j'ai pas vu la bande-annonce. Mm. C'est marrant. Hein. T'as des Green Lantern, t'as des Flash, t'as des Superman... Et tu décides de faire Black Adam et Shazam et de même pas les mettre ensemble.
c'est terrible.
Les cons. Les cons, je te jure.
Bah, c'est The Rock qui a poussé pour avoir son fight contre Superman plutôt que contre Shazam.
Oui, donc,
quoi.
Monsieur Cavill revient.
Et oui, tout à fait.
C'est officiel.
Oui, bah, il l'a annoncé. Il y a eu le caméo à la fin du film. Bon, peut-être que je spoil, mais bon, on est en fin d'épisode, donc je pense que les gens qui écoutent jusque-là...
Ils s'en foutent, en plus.
Puis ça a été annoncé par l'acteur. Oui, c'est ça. Et puis...
ça veut dire un petit truc, on est d'accord.
Bah, ça veut dire...
Que Zachary revient.
Pas sûr, hein, parce
on
que...
sort le champagne, ou pas.
C'est James Gunn qui, du coup, devient directeur créatif à la Kevin Feige de DC.
Ouais.
Avec un
ça veut dire qu'on va coller au Superman des comics, déjà, quoi. Si c'est James Gunn qui gère un petit peu derrière.
Et tu vois, dans la note d'intention, en tout cas, bon, c'est pour le film Black Adam, donc je sais pas jusqu'à quel point ça va rester comme ça, mais la musique qu'ils utilisent pour le retour de Superman, la couleur de son costume... On n'est pas sur un retour de Zack Snyder, hein. On n'est pas sur un retour du Zack, hein.
Tu te rappelles quand Whedon avait utilisé ce thème aussi et pareil, il avait utilisé le thème de Batman des années 80.
Alors que il y avait Zack Snyder avait son thème pour son Superman qui était très beau d'ailleurs. Enfin,
ah oui.
Le thème de la musique de Man of Steel est super.
Celui dans Zimmer là, magnifique. Mais
plus sombre, enfin plus.
Mais tu penses Superman. Je suis désolé, je pense
plus
Superman.
Lumineux.
J'entends la musique de John Williams.
Elle est trop bien.
C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Content, personnellement, parce que j'ai toujours trouvé que Cavill était fait pour jouer le rôle, même s'il est un peu trop musclé, je l'ai toujours dit, il est un peu trop musclé. Il peut pas jouer Clark Kent, en fait, c'est ça le problème. Mm. Mais en fait, ça veut dire un mec comme Gunn, qui respecte vraiment les comics, qui sait de quoi il parle, tout simplement.
Ah, ça oui.
Un mec, tu mets à la Real, putain, comment il s'appelle celui qui a fait First Class ?
Matthew Vaughn ?
Tu mets Matthew Vaughn à la Real, par exemple. Non, Matthew Vaughn, c'est trop énergique pour être, pour être Superman. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui, mais il doit bien avoir un réel qui traîne, qui peut bien faire ça. Hein.
C'est con, hein, parce
un mec qui commence par Z, qui ça finit par Y. Un petit Zachary.
Ouais, mais il bosse pour Netflix maintenant.
Oh.
Je sais pas s'il est en exclusivité.
Imagine
avec eux,
le bordel que ce serait, il come back, il fait Man of Steel 2. Moi, je vous ai dit, j'ai fait un 180 sur Zack Snyder, de toute façon.
De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas.
Non, je détestais. En fait, j'ai rien contre le mec, mais c'est juste qu'il avait, il s'était attaqué à deux personnages que j'aime beaucoup. Et que pour moi, son style ne fonctionnait pas avec ce qu'il voulait faire. Par contre, en tant que personne, et vis-à-vis de tout ce qu'il a vécu avec Justice League et tout ce bordel,
tu peux avoir de l'empathie.
Je suis obligé d'avoir un peu de sympathie pour le mec, quoi, tu vois.
Donc, bah, peut-être pas de la sympathie, mais au moins un peu d'empathie pour ce qu'il a traversé, quoi.
Voilà, parce que... après, j'oublierai toujours pas qu'il a dit que Batman devrait se faire violer dans les douches et ce genre de truc en prison.
Ça fait oublier une sorte de déclaration.
Par exemple, hein, c'est juste un exemple qui me vient à l'esprit. Mmh. Mais en tout cas, de voir cette sorte de renaissance qu'il a eue avec Justice League et tout le monde qui était plus ou moins de son côté, même les critiques étaient plus ou moins de son côté.
Oui, mais tu pouvais pas lui en vouloir, en fait, de pouvoir sortir le film qu'il avait écrit de base, quoi. Enfin, c'est...
Donc, s'il revient pour Man of Steel, ça me dérangerait pas. Par contre, là, en l'occurrence, faudrait qu'il ait un scénariste qui s'adapte mieux à Superman que ce qu'on a eu dans Man of Steel.
Bah, soit un scénariste qui s'adapte mieux, soit une manière d'ancrer le personnage dans un univers qui soit pas un univers aussi... terne et sombre, en fait, où t'es justement que ça soit lui qui amène la lumière dans cet univers-là.
Il a le droit de sourire.
Et pas lui qui cache la lumière d'une certaine manière en se mettant devant le soleil, tu vois, genre. Oui, où il puisse sourire déjà, parce que, enfin. C'est un personnage lumineux, Superman, et qui a besoin de lumière, justement. Enfin, c'est. Tu peux pas en faire un. C'est intéressant d'en faire un personnage qui commence comme dans Man of Steel.
Son logo, c'est censé vouloir dire espoir.
Espoir, quoi, tu peux pas avoir un personnage.
C'est la souris qui marche plus.
Le studio nous lâche.
Mais complètement. Le micro lâche, la souris lâche. Moi, je lâche. Désolé pour cet épisode assez court. Mais c'est déjà bien qu'on le fasse, parce que franchement, j'en ai marre de ces conneries. Non, je rigole. C'est juste que la phase 4 m'a vraiment pas chauffé.
Ah, c'était un peu épuisant.
DC m'a pas chauffé. Même The Batman.
The Suicide Squad était bien.
The Batman,
bien,
j'ai jamais eu aucune envie de le revoir depuis la sortie.
Je pense que c'est le meilleur film de super-héros de cette année, quand même.
Tic-tac, tic-tac. Ouais.
Qui est trop long aussi, hein, par moment. Mais...
C'est ça le problème que j'ai avec.
Ouais, je suis d'accord.
C'est le problème que j'ai avec.
C'est la même chose avec Black Panther, d'une certaine
manière. Mon cousin m'a dit, je me suis lancé le nouveau Batman. Lui, c'est pas un énorme cinéphile. Mmh. Et il me dit, il se passe rien, je me suis endormi au bout de 20 minutes.
Aïe.
Et il dit, j'ai regardé les 20 minutes d'après. En fait, il s'endort toutes les 20 minutes. Il regarde la suite tous les jours. Il regarde
ça lui
la
fait
suite.
une petite sitcom. Ouais, regarder tous les
ça,
jours.
Il se regarde son petit Batman.
Son petit épisode de 20 minutes. Et si, quand même, une petite pensée, je pense qu'on peut en parler ici, pour Kevin Conroy qui nous a quittés.
Ah oui, monsieur Conroy.
Cette semaine. Qui était la voix emblématique de Batou, quand même.
I am the night. I am vengeance. I am Batman. Ah, la classe.
Eh oui.
Il y a toujours un Patreon.
Il y a du monde.
Il y a du monde, on est 200 maintenant. Et sur le Patreon, vous pouvez trouver tous nos épisodes sur les séries Marvel. Et on en a fait plein depuis la dernière fois.
On a même fait des séries d'ici, hein.
Ouais, on a fait quoi là,
on a... Peacemaker, on a fait.
On a fait Peacemaker, je l'ai déjà mis en ligne.
Toutes les séries Marvel Studios, oui, c'est vrai que c'était déjà sorti. Ouais.
C'est vrai que j'ai oublié de sortir le reste.
Voilà, on doit être sur Moon Knight, on doit être sur She-Hulk, dans les séries qu'on n'a pas.
On a fait Moon Knight,
Miss Marvel.
Miss Marvel.
On n'a rien fait sur la mini-série sur Groot.
Non, c'est vrai.
Parce que c'est pas plus mal, mais.
Un jour, on en parlera.
Ouais, non, je suis pas sûr. Et à 300 patous, 400 patous, c'est.
C'est Morbius.
Morbius et Black Adam.
Et Black Adam. Allez, salut, à la prochaine tout le monde.
Salut, salut.
Bye.